Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Fit-elle ce soir, la fin justifie-t-elle les moyens ? Qui succédera à José Graziano da Silva le 23 juin prochain, dans 10 jours, à la tête de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation ? Le mandat de cet agronome américano-brésilien arrive à son terme et c'est une femme, une Française, qui semble en mesure de lui succéder. Catherine Gélin-Lanéel est donnée favorite face aux trois autres candidats présentés par la Chine, l'Inde et la Géorgie. À moins que sa candidature ne soit plombée par des propos tenus dans le cadre de sa campagne au sujet notamment des OGM. Pour Catherine Gélin-Lanéel, face à l'augmentation de la faim dans le monde depuis 3 ans, après une période de baisse, toutes les solutions doivent être envisagées pour lutter contre ce phénomène, y compris les OGM et plus largement les biotechnologies. Alors, cette approche qui se veut pragmatique va à l'encontre des priorités définies par l'Union européenne en matière d'agriculture et de souveraineté alimentaire. Une personne sur 9 souffre de la faim dans le monde. Il s'agit dans cette approche de ne négliger aucun moyen pour y faire face. Mais ne fait-elle pas prendre le risque d'aggraver le mal plutôt que de le réduire ? Alors la faim justifie-t-elle les moyens ? C'est le thème de notre discussion ce soir en compagnie de 3 invités. Marion Guillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente d'Agrinium, qui est l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France, qui réunit un certain nombre d'établissements supérieurs et d'organismes de recherche,
oui.
Dont l'INRA.
Oui, ça. Le CIRAD, le Montpellier Supagro, AgroParisTech, les écoles vétérinaires, etc. Enfin, donc forêt, agriculture, alimentation, environnement.
J'évoque l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, puisque vous en avez été la présidente, Marion Guillou. Pour discuter avec vous, Sylvie Brunel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, économiste. Vous venez de publier, enfin, c'était il y a quelques semaines de cela, chez Lattès, toutes ces idées qui nous gâchent la vie. Vous avez beaucoup écrit sur la question de la faim dans le monde et comment y répondre, comment nourrir la planète. Et je précise que vous avez été, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, présidente de l'ONG Action contre la faim.
Oui, et que j'ai travaillé 17 ans dans les ONG, 5 ans à Médecins sans frontières et 12 ans à Action contre la faim.
Lui travaille justement pour une ONG, n'est-ce pas, Valentin Brochard ? Bonsoir.
Bonsoir.
C'est en l'occurrence au CCFD Terre Solidaire, CCFD, Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et vous y êtes en charge du plaidoyer souveraineté alimentaire. Alors, pour préparer l'émission, nous sommes basés, bien entendu, sur le dernier rapport de l'ONU consacré à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans le monde, qui date de septembre dernier, et qui fait état d'une hausse du nombre de personnes souffrant de faim. Je voudrais d'ailleurs commencer là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire souffrir de faim, Sylvie Brunel ?
Alors, c'est un terme générique qui regroupe des choses extrêmement différentes. Vous pouvez souffrir de sous-nutrition chronique, par exemple quand vous êtes pauvre et vous n'exercez pas pleinement votre potentiel d'activité parce que votre alimentation, eh bien, elle ne contient pas ce qu'il faut. Ce sont souvent d'ailleurs des ruraux pauvres. Vous pouvez être victime de carences. On considère qu'il y a 2 milliards de personnes qui souffrent de carences. Et puis, vous pouvez être victime de ce qu'on appelle la famine, c'est-à-dire la rupture absolue de nourriture pour des populations entières, qui peut entraîner à brève échéance la mort si rien n'est fait pour interrompre le processus. Et il faut bien comprendre, quand on est dans un territoire, quelles sont les raisons de la faim, parce que bien évidemment, on n'agit pas de la même façon face à la malnutrition chronique engendrée par la pauvreté et face à la famine qui est souvent la conséquence de l'oppression ou de la guerre.
C'est justement la question que j'allais poser à Marion Guillou. Selon le niveau de la souffrance par rapport à la faim, la réponse doit être évidemment adaptée. D'abord peut-être en termes d'urgence, mais aussi en termes de réponse peut-être plus structurelle.
Oui, effectivement, il y a des faims. Et d'ailleurs, Amartya Sen le disait bien, quand il y a quelqu'un qui a faim, c'est pas forcément qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que cette personne-là n'a pas assez à manger. Donc la plupart du temps, aujourd'hui, sur la Terre, il y a assez à manger pour tout le monde. Or, 821 millions de personnes qui ont faim, vous le disiez tout à l'heure, 2 milliards de personnes qui ont des déficits forts, des déficits de type vitaux pour eux ou pour leurs enfants ou de grandes maladies. Donc, de fait, il y a assez en quantité. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès, soit parce qu'il y a des conflits, des guerres, impossibilité d'avoir accès, d'acheminer la nourriture, soit problème d'accès économique, c'est-à-dire c'est trop cher. Donc c'est inaccessible, ils sont en campagne, ou alors ils sont en campagne et effectivement à un moment donné il y a problème de culture. Donc la première chose c'est le diagnostic, vous avez exactement raison. On travaillait à l'INRA avec la BAIF en Inde, et la BAIF en Inde a sorti plusieurs millions de personnes de la faim et de la pauvreté, et la première chose qu'ils faisaient c'était effectivement comprendre pourquoi. Est-ce que c'était une maladie? Est-ce que c'était un problème d'outils de production? Voilà. Et après seulement, on peut intervenir.
Alors ce diagnostic, ça commence donc par les chiffres, hein, même si vous venez de le dire, Sylvie Brunel et Marion Guillou, ça suppose aussi de les qualifier pour voir quel est le niveau de souffrance par rapport à cette faim. 821 millions, donc ça ce sont les chiffres de l'ONU, de personnes qui souffrent de la faim en 2017. C'était 804 millions en 2016. Valentin Brochard, d'abord, où est-ce qu'on souffre le plus de la faim aujourd'hui dans le monde, et comment est-ce qu'on explique que ces chiffres augmentent? Est-ce que c'est simplement parce que peut-être la population mondiale augmente?
Merci beaucoup. Je pense effectivement qu'il y a différents contextes à prendre en compte en complément des interventions précédentes. Bon, les chiffres de la faim du dernier rapport sur l'état de l'insécurité alimentaire et la malnutrition des Nations Unies indiquent que c'est principalement en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine que les chiffres ont augmenté, même si le constat d'augmentation de la faim, il est global, et on est actuellement dans une augmentation pour la troisième année consécutive. J'aimerais attirer l'attention sur deux faits. Le premier, c'est qui sont les personnes qui souffrent de la faim. Actuellement, la grande majorité, donc plus de la moitié des personnes qui souffrent de la faim, sont eux-mêmes agriculteurs. Ils travaillent eux-mêmes la terre. Selon les chiffres de la FAO, on va rester sur ce référentiel-là, ces agriculteurs produisent actuellement 80% de l'alimentation mondiale. 80% de l'alimentation qui est consommée dans le monde est issue de ces individus. Après, il y a beaucoup de mythes sur les raisons sur lesquelles, pourquoi ces personnes ont faim. Et le premier mythe, c'est que c'est dû à un manque de production alimentaire. On l'a effectivement mentionné juste avant. La production alimentaire actuellement au niveau mondial, elle peut nourrir la planète. Un exemple frappant, c'est l'Afrique de l'Ouest, où la faim a particulièrement augmenté. En 2007, l'Afrique de l'Ouest, elle était touchée par une de ses pires crises alimentaires, alors que elle était en surplus céréalier. Les greniers étaient pleins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter la production. Vous avez bien dit qu'il y a une transition démographique et une croissance démographique. Ça veut juste dire qu'il faut effectivement penser la lutte contre la faim dans une approche plus systémique, en ciblant les causes sous-jacentes de la faim.
Alors justement, venons-en à cette question d'une augmentation nécessaire ou pas de la production alimentaire dans le monde. Et puisque vous l'avez dit, mais est-ce que vous êtes aussi d'accord sur ce constat, Sylvie Brunel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'est pas nécessaire d'augmenter la production alimentaire. En tout cas, il y a suffisamment de quoi nourrir tout le monde. C'est quoi? C'est avant tout un problème de répartition qui pose problème.
Alors, si le monde était, comment dire, équitablement disposé, effectivement, on produit 2,7 milliards de tonnes de céréales, et si ça pouvait être également réparti, même en tenant compte des pertes de ce qui est utilisé pour les semences ou pour les animaux, on aurait largement de quoi nourrir chaque être humain. Le problème, c'est qu'il y a deux filtres. D'abord, en géographie, on travaille beaucoup à l'échelle locale. Et vous avez des régions où, effectivement, les disponibilités ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans le Sahel, même si les greniers sont pleins dans les villes ou dans certaines régions, où les gens souffrent de la faim au quotidien parce qu'ils n'arrivent pas à exercer la soudure, c'est-à-dire le moment où les greniers sont vides et il faut planter la nouvelle récolte, parce qu'il y a une flambée des prix liée à la volatilité, et même le plus modeste foyer rural a des besoins financiers parce que les gens, ils ont aujourd'hui des téléphones, il faut qu'ils se déplacent, etc. Et puis, il y a un autre problème, c'est que, Valentin l'a dit, la population mondiale non seulement continue d'augmenter, on va être 9 à 10 milliards en 2050, mais en plus, cette population, elle est de plus en plus urbaine et son niveau de vie s'élève. Et plus le niveau de vie de la population s'élève, plus, bien sûr, les besoins alimentaires de ces populations qui étaient des anciens pauvres, qui avaient des régimes alimentaires monotones et carencés, quand leur niveau de vie s'élève, ils veulent faire 3 repas par jour avec des aliments de qualité. Ils veulent avoir accès, par exemple, aux protéines animales. Ils veulent, par exemple, mettre du lait, de la viande, des fromages ou alors simplement de l'huile.
Ça veut dire qu'à l'horizon, justement, de 2050, Sylvie Brunel, il faut penser à l'augmentation de la production, forcément.
Alors, ce que dit la FAO, c'est qu'il faudra passer à 3,4 milliards de tonnes de céréales d'ici 2050 pour faire face à la fois à la croissance démographique, au changement de nature de la population mondiale qui sera aux deux tiers dans les villes en 2050, et puis aussi pour faire face aux conséquences du changement climatique, parce qu'il est particulièrement fort aux basses latitudes, c'est-à-dire dans les régions tropicales, là où vivent déjà les pauvres d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire à la fois cette augmentation prévue de la population mondiale, ces nouveaux besoins alimentaires liés à l'enrichissement, mais aussi l'impact des dérèglements climatiques qui font que des épisodes assez tragiques se multiplient. Alors on le voit assez régulièrement, c'est appelé à se renouveler. Donc ce qui veut bien dire que si aujourd'hui il y a suffisamment pour nourrir la planète, Marion Guillou, ça ne sera peut-être pas le cas dans les années à venir. Donc il faut réfléchir aussi dans ces termes-là.
Alors il faut évidemment penser à la situation à venir. Et d'ailleurs, quand on fait de la recherche, on est obligé de penser au moins 10 ans à l'avance, hein, parce que le temps de mettre au point une semence, c'est quand même plusieurs années. Et donc oui, quelle est la situation à venir? Vous le disiez, urbanisation, enrichissement en moyenne de la population, donc plus de demandes alimentaires. Dans l'histoire, ça, c'est toujours pareil. D'abord, les gens demandent à manger assez, ensuite ils demandent à manger plus diversifié, et ensuite, jusqu'à maintenant, le troisième stade était toujours le même, demandent d'avoir accès à des produits d'origine animale. Un produit d'origine animale, vous le savez, ça consomme plus de calories d'origine végétale, et donc ça demande plus de production. Alors oui, donc il y aura besoin d'une production plus résiliente, conditions du changement climatique, il y aura besoin d'échanges, sans le dire rarement, parce qu'en fait, quand une zone est en accident climatique, c'est pas toutes les zones qui le sont ensemble, et donc on aura besoin de continuer à assurer des échanges, ce qui dans un monde plus tendu demandera à être attentif à cette condition. Diminuer les pertes et gaspillages, il faut quand même le répéter. Actuellement, les pertes et gaspillages, on les évalue à 30%, bien sûr, quelquefois c'est au champ, quelquefois c'est dans les silos, quelquefois c'est dans la distribution, la restauration ou chez le consommateur, donc pas toujours les mêmes méthodes de lutte, mais évidemment qu'il va falloir jouer sur ces 30%, qu'il va falloir en retrouver une partie, soit carrément à l'amont, soit en la valorisant sous forme d'énergie, de biomasse ou d'autres produits. Donc oui, il faut penser des technologies, il faut penser des politiques, il faut penser un système économique qui sera résilient dans ce monde de 2050 avec des conditions climatiques plus erratiques.
Valentin Brochard.
Très rapidement, je suis entièrement d'accord avec le point qui a été évoqué sur les pertes et gaspillages. J'aimerais juste rebondir sur les projections de la FAO vis-à-vis de 2050 parce qu'elles sont quand même un peu contestées, notamment dans leurs prédictions, dans la réduction des pertes et des gaspillages, que ce soit au niveau des productions ou au niveau de l'assiette. Et là-dessus, il y a deux solutions qui généralement en fait sont peu mises en avant, qui est la relocalisation en fait des productions au niveau des pays et des zones les plus déficitaires, et surtout le changement de pratique agricole. Là, j'ai entendu parler des différentes solutions techniques qu'on pouvait mettre sur la table. Au-delà des solutions techniques, il y a aussi le système agricole et le système alimentaire qui a pensé dans son ensemble, car au-delà du gap de production qui manque d'ici à 2050, si on retravaille notre système alimentaire, si on retravaille notre système agricole, si on le rend plus durable, notamment vis-à-vis des impacts du dérèglement climatique, mais aussi si on le rend plus équitable économiquement et socialement parlant, on aura déjà fait un grand pas en avant.
Mais est-ce que cette réflexion, elle passe aussi par une modification du système alimentaire? Ce que nous disait Marion Guillou, par exemple, c'est-à-dire avec l'enrichissement des populations, on va avoir des personnes qui vont avoir un régime de plus en plus carné. Est-ce que ça veut dire pour vous, CCFD Terre Solidaire, Valentin Brochard, ça veut dire aussi penser de nouveaux systèmes, y compris pour les pays qui se développent, qui restent un peu à l'écart justement de cette alimentation carnée?
La transition alimentaire, c'est un processus qui est clairement défini et qui est bien documenté. En tant que tel, j'aimerais juste préciser une chose avant ma réponse, c'est juste préciser ce qu'est le CCFD Terre Solidaire.
Je veux bien que vous répondiez quand même, parce que sinon, ouais. Enfin, on a déjà fait en plus des émissions avec le CCFD, hein, vous inquiétez pas, on connaît un petit peu.
Donc, oui, bien entendu, il faut penser le système alimentaire dans son ensemble. Ça implique de penser nos modes de consommation, ça implique de penser nos modes de production, ça implique de penser nos modes de stockage aussi des aliments et ce qu'on fait des résidus alimentaires. Ce sont des questions qui touchent tant le nord qu'au sud, pas forcément dans les mêmes dynamiques. La transition alimentaire, comme je vous ai dit, c'est un processus qui est bien documenté, qui ne touche pas les régions de la même façon, sachant qu'il y a des régions du monde qui sont à différentes étapes de cette transition alimentaire vers des produits carnés.
Alors Marion Guillou et ensuite Sylvie Brunel.
Oui, je voulais vous donner l'exemple du travail Agrimonde qu'on avait fait INRA et CIRAD ensemble pour regarder comment arriver de manière durable. Est-ce qu'on arriverait, la question était simple, est-ce qu'on pourrait nourrir de manière durable la planète en 2050? On avait pris l'hypothèse de 9 milliards à l'époque. Vraisemblablement, ce sera un petit peu plus. Et en partant de l'hypothèse majeure d'une consommation par personne et par jour de 3000 kilocalories. Ce qui suffit, puisqu'on a besoin de 2200 kilocalories. Mais actuellement, dans nos pays, c'est en moyenne 4000, aux États-Unis, 4800. Donc, première hypothèse, premier fil conducteur, selon l'hypothèse qu'on prend sur le nombre de kilocalories par personne et par jour, la production qui sera nécessaire est complètement différente. Et dans le système Agrimonde, une augmentation de 30% d'ici 2050 suffisait, alors que les projections de la FAO dont on parlait tout à l'heure, c'était entre 70 et 80% de plus qu'il fallait. Donc, vous voyez, ce qu'on mangera est un déterminant d'ordre 1 des besoins de production agricole. Deuxième déterminant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les pertes et gaspillages, que ce soit au champ, la production, la protection contre les ennemis des cultures, que ce soit dans les silos, ce qu'on a fait en Amérique du Sud sur l'aération des silos pour éviter que les champignons ne gâchent toutes les récoltes. Vous voyez, à toutes les étapes, on peut penser des changements technologiques pour économiser. Et selon ces hypothèses, donc selon les régimes alimentaires notamment, en numéro un, ça changera tout sur les besoins de production agricole.
Sylvie Brunel.
Oui, Valentin Brochard l'a dit tout à l'heure, 80% de la production pour l'instant reste au niveau local. Beaucoup de gens qui souffrent de la faim sont des ruraux et notamment des ruraux pauvres. Ce qui veut dire que pour résoudre la question de la faim, dont on a vu qu'elle pouvait être très variée, il faut vraiment travailler à l'échelon local. Par exemple, sur la question de la viande. En fait, il y a plein de populations qui vivent dans des milieux très difficiles, des steppes, des moyennes montagnes, des territoires dans lesquels vous ne pouvez pas faire autre chose qu'avoir des troupeaux. Et ce sont ces troupeaux qui vont valoriser des terres médiocres, des terres qui sont en plus souvent dégradées, pour en faire des protéines animales de premier choix. Donc il ne faut pas dire, il y avait un livre qui était sorti à l'INRA il y a quelques années qui s'appelait « L'élevage richesse des pauvres » et qui parlait des 2 milliards de ces 2 milliards de personnes. Donc ça veut dire que pour apporter des réponses, il faut à chaque fois se dire, ok, ces gens-là, comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont, par exemple, une tonne juste de céréales à l'hectare, comme c'est le cas dans plein de campagnes sahéliennes, avec pas d'outils, c'est pénible, c'est dur, ils guettent les caprices du ciel, ils ont pas de filière, ils peuvent pas vendre à des prix rémunérateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là, juste, ils passent d'une tonne à 3 tonnes? Ce qui déjà va changer leur vie, et puis travailler sur les greniers, travailler sur le prix de vente. Parce que comment vous voulez faire un effort pour produire plus si on ne vous achète même pas votre production? Il n'y a plus personne aujourd'hui qui vit en autoconsommation. Et puis chez nous, parce qu'il faut parler aussi de l'agriculture des pays riches, il y a quelque chose de marquant, c'est que nos agriculteurs aujourd'hui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont déconsidérés. Ils ont énormément produit pour répondre justement à nos besoins. Ils ont fait que nous sommes des gavés, des nantis, Marion l'a dit. 4000 calories par jour. Mais aujourd'hui, on les conteste. On dit, vous polluez, vous empoisonnez. Alors que d'abord, ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, les méthodes agricoles dans nos pays, elles sont engagées dans ce qu'on pourrait appeler une troisième révolution agricole. C'est-à-dire, comment continuer à produire en produisant mieux avec moins d'intrants, mais en anticipant aussi les aléas du changement climatique? Donc, les réponses, elles sont très variées. Et si vous voulez bien, mais pas maintenant, parce que j'ai déjà utilisé beaucoup mon temps de parole, je vous dirai, à mon avis, les choses auxquelles il faut absolument penser, ce que j'appelle les 7 P. Alors, je vous dirai ça, mais je ne veux pas monopoliser la parole.
On revient très vite vers vous, Sylvie Brunel, mais justement, par rapport à ces solutions et cette variété de solutions qui peut être envisagée, je voudrais justement, alors qu'on évoque celle qu'a évoquée la candidate française pour la direction de la FAO, je rajoute donc cette agence de l'ONU chargée de l'agriculture et de l'alimentation, qui a dit notamment ceci, c'était dans une interview à l'agence France Presse, à propos des OGM, dit-elle qu'elle n'écarte pas cette piste. Si je vois qu'il y a un riz OGM enrichi en vitamines qui pourrait permettre d'apporter des solutions à la malnutrition, il faut examiner ce produit et cette innovation. Alors, il ne dit pas que c'est la seule piste, mais que c'est une piste parmi d'autres à étudier. Est-ce que pour vous, Marion Guillou, et la question sera la même pour vous, Valentin Brochard, c'est faire preuve de pragmatisme, et il faut aller dans cette voie notamment, ou bien est-ce que c'est une piste à totalement écarter aujourd'hui ?
Non, Catherine Gélané, elle s'adresse au monde entier. Elle s'adresse à tous les pays qui ont des modèles de production extrêmement divers. Et je pense qu'elle a totalement de raison de dire qu'elle est ouverte à toutes les solutions qui répondent à un besoin de bien public. Je veux dire, elle ne vantait pas les OGM résistants aux herbicides. Hein, dans cette interview, elle disait qu'il ne fallait pas écarter une piste si cette piste permettait de lutter. C'était l'élasticité. Je pense qu'elle faisait allusion au problème de carence et d'apport de vitamine A à travers, ça peut être les patates douces, ça peut être le riz, ça peut être autre chose.
Oui, ou les papayes ou le manioc qui sont soumis à des atteintes colossales sur lesquelles il faut absolument trouver des variétés qui puissent faire face au feu bactérien, à la rouille. On a la mondialisation, c'est la mondialisation des virus, des bactéries, des prions, des parasites. On n'a pas beaucoup de temps, la population augmente, donc il faut trouver des réponses. C'est pour ça qu'il ne faut rien exclure d'emblée.
Alors, mais je reprends.
Ouais,
Il ne faut rien exclure d'emblée, mais il ne faut pas croire aussi qu'un objet technique, qu'une seule semence sera la solution à tout. Et moi, je reviens sur ce que Valentin disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il faut penser des systèmes qui vont être plus résistants, plus ce qu'on appelle résilients dans notre langage, c'est-à-dire qui vont savoir réagir à des conditions climatiques différentes. Il faut trouver des systèmes qui vont répondre aux parasites qui vont circuler. Donc, il faut être ouvert à toutes les solutions, mais en sachant qu'une solution technique seule, ça suffit pas. Il faut une solution technique incluse dans un système de production et incluse dans un système alimentaire. Parce que si vous introduisez une semence résistante et que vous ne prenez que cette semence résistante sur toute une surface, eh bien les parasites vont c'est les parasites résistants à l'ennemi qui vont être sur-sélectionnés et au bout d'un moment la résistance sera contournée. Donc en agronomie, il faut jamais penser un objet technique tout seul. Et c'est pour ça que je pense que Catherine Gélané-Laniel avait raison de penser à toutes les solutions. Il se trouve, par exemple, que la France et l'Europe poussent les approches agroécologiques au niveau de la FAO. D'ailleurs, tout un nombre de pays maintenant suivent la France dans ses approches agroécologiques. Je veux dire, on a fait un colloque l'année dernière, on avait des exemples chinois, on avait des exemples d'Amérique latine, on avait des exemples d'Amérique du Sud. Donc, je pense que l'objet technique pourra apporter quelque chose, plus résistant à un parasite, plus apportant un micronutriment, mais il faudra aussi penser le système alimentaire et le système agricole.
N'écartez aucune solution, Valentin Brochard, y compris aucune solution technique. C'est aussi votre point de vue ?
Non, j'ai un avis quelque peu différent sur le sujet. C'est le but justement de ce débat. Il y a eu différents éléments qui ont été posés sur la table et auxquels j'aimerais répondre en deux temps. Mon premier élément, ça va être le rôle des OGM et des biotechnologies dans tout ce qui effectivement est propagation des maladies, recherche d'amélioration végétale, recherche d'amélioration technologique en fait de l'alimentation. Et je pense que ici on prend en fait le problème à l'envers. En un siècle, entre 1900 et 2000, on a quand même perdu 75% de la biodiversité cultivée au niveau mondial, car on s'est spécialisé dans un type de monoculture qui est principalement céréalier. Il existait des espèces qui actuellement ne sont pas mises sur le marché, ne sont pas poussées, notamment en Afrique de l'Ouest, pour lutter contre la sous-nutrition, qui ont des rendements et qui ont des qualités nutritionnelles qui sont bien au-delà de actuellement ce qui est proposé commercialement en tant que variété enrichie en nutriments. Par rapport à la rouille dont on parlait, il faut faire un peu d'histoire. Pourquoi est-ce que la rouille se répand actuellement en Afrique de l'Ouest? Une des grandes raisons, c'est qu'on fait de la monoculture de blé et qu'actuellement la rouille s'attaque principalement au blé. C'est beaucoup plus facile pour une maladie de se répandre quand vous avez des champs de monoculture côte à côte sur une seule céréale. Si on inversait un peu le problème et qu'on était plus sur une approche de diversification des productions céréalières mais aussi maraîchères, sur une diversification de l'alimentation, déjà on résoudrait une grande partie du problème.
Car donc là, ce que vous dites en fait, Valentin Brochard, oui, c'est que ces solutions techniques qui peuvent être présentées dans certains cas comme des solutions au problème, elles sont au contraire en partie la cause du problème.
C'est exactement ça. C'était mon deuxième point, parce que là on est en train de proposer en fait des solutions qui nourrissent le problème initial. Et c'est pour ça que je parlais de changement de pratique. Quand on parle d'OGM, et c'est pour j'essayais de de préciser qui souffrait de la faim initialement. C'est 80%, à plus de 55%, ce sont des petits producteurs. Les OGM sont actuellement, à nos yeux, en tout cas, une fausse solution pour lutter contre la faim, pour trois raisons principales. La première, c'est que quand on parle d'OGM, soit ce sont des variétés stériles, ce qu'on appelle communément des gènes terminateurs, et donc ça engage les petits producteurs à racheter les semences à chaque saison agricole, et donc du coup ça les met dans un circuit d'endettement, soit ce sont effectivement des variétés qui sont non stériles, et là il y a clairement un risque pour la biodiversité, un risque de reproduction, et donc de dissémination de l'OGM. Et la troisième raison, pourquoi est-ce que nous pensons que c'est une fausse solution, c'est car l'utilisation des OGM, en fait, elle se calque sur un modèle d'agriculture qui est industriel, qui est gourmand en intrants chimiques et qui, pour nous, est actuellement à bout de souffle.
Alors, et Sylvie Brunel et Marion Guillou veulent vous répondre, Sylvie Brunel.
C'est tellement un discours slogan que je suis un peu gênée parce qu'il y a tellement de contre-vérités dans ce qui est dit là-dedans qu'il faudrait que je reprenne tout. C'est-à-dire que le problème des ONG, c'est qu'il faut qu'elles trouvent des slogans. Et donc, elles trouvent des slogans et elles s'arc-boutent sur ces slogans. En Afrique de l'Ouest, le paysan, en fait, il travaille sur une stratégie de minimisation des risques. C'est-à-dire qu'il associe énormément de variétés parce que comme il ne sait pas à quel moment vont arriver les pluies, etc., il fait appel à des semences paysannes et il fait ce qu'il peut. Il a des rendements très faibles. Il est dans l'aléa complet. La recherche aujourd'hui, c'est pas la recherche seulement de firmes commerciales cherchant le profit, c'est la recherche publique de structures qui se disent comment on va faire face à tous les aléas pour permettre à ces paysans d'avoir accès à une façon, sans changer leurs pratiques, de produire de façon plus sûre. Et la sélection variétale, elle a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même plus des OGM, c'est ce qu'on appelle du CRISPR-Cas9, c'est-à-dire des ciseaux moléculaires. On peut gagner beaucoup de temps et il faut gagner du temps parce que vous avez 7 nouveaux insectes bio-agresseurs, par exemple, qui arrivent chaque année en Europe.
Oui, mais si cette recherche publique, elle était efficace, ça devrait aussi se traduire dans les chiffres.
Ben alors, je vais vous dire, ça se traduit.
Manifestement, puisque, c'est pas le cas.
Ben si, puisqu'en 1960, il y avait une personne sur trois qui souffrait de faim dans le monde. L'espérance de vie était de 45 ans dans le monde. Aujourd'hui, il y a une personne sur neuf, mais ça fait 800 millions de personnes. Donc on est passé d'une personne sur trois, 1 milliard de personnes, à 800 millions de personnes. On est 7,7 milliards sur la Terre. Et ceux qui souffrent de la faim, c'est précisément ces gens qui sont de toute façon exclus de tout ça. Parce qu'ils ressèment, parce qu'ils n'ont pas d'outils, parce qu'ils n'ont pas de filière. Ce sont des gens qui n'intéressent même pas de toute façon les structures commerciales parce qu'ils n'ont pas de pouvoir d'achat. La faim, ce sont les non-consommateurs, ce sont des gens qui sont à part, on les entend pas, ce sont des gens qui souffrent de la faim silencieusement. Alors, je trouve super que le CCFD ou d'autres, ou Action contre la faim, ou AFDI, travaillent sur des projets fabuleux d'agroécologie. Ils arrivent très vite, en l'espace de quelques mois, à augmenter considérablement les rendements, à faire en sorte que les agriculteurs vivent mieux, à mettre en place des coopératives. Le problème...
Mais ça vaut peut-être le coup, alors, justement, de renforcer les aides et les investissements dans cette agroécologie.
Mais bien sûr, mais il ne faut pas opposer les modèles, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez des grandes plaines immenses où il n'y a personne, des exploitations où il y a des milliers d'hectares. Et ces milliers d'hectares, bah, il faut bien les valoriser, sachant que aujourd'hui, la moitié de la population mondiale vit dans des mégalopoles et que ces mégalopoles, elles ont besoin d'une nourriture accessible en toute saison et à bas prix.
Alors, il ne faut pas opposer les modèles, mais est-ce que des modèles peuvent être exploités simultanément dans une même zone ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire, Marion Guillou, de l'agroécologie et des biotechnologies en même temps ? Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas une forme de contradiction ou en tout cas de concurrence entre ces modèles ?
Alors, idéologiquement, il y a une forme de concurrence, hein, c'est clair. Mais je vous dis, tout à l'heure, je défendais l'affirmation de Catherine Gélin-Lanel qui disait qu'elle ne choisira pas exclusivement soit l'agroécologie, soit les biotechnologies. Je vais vous donner des exemples concrets. Personnellement, je fais partie d'un centre de recherche international qui s'appelle Bioversity. Et notre première cause, c'est de maintenir la diversité accessible, donc de la conserver et de faire en sorte qu'elle soit utilisée au maximum parce que ces céréales dont on parle, souvent, elles sont pauvres en nutriments. Et donc, il faut des tas de petits végétaux qu'on trouve sur place pour arriver à avoir une alimentation équilibrée en micronutriments. Donc oui, pour l'utilisation et même la réaugmentation de la biodiversité, puisque comme vous le disiez, il y a eu une diminution de la biodiversité cultivée dans le monde aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas, je vous donne l'exemple du virus du cournoué, puisque à l'INRA, on avait travaillé sur cette maladie de la
cournoué
vigne.
Cournoué sur la vigne. Hein.
Sur la vigne, qui ravage les vignes. Avant, on utilisait, je crois que c'était l'arsenite de soude ou un produit qui a été reconnu comme un poison, donc qui est interdit. Donc vous vous trouvez dans une impasse. Que faites-vous quand vous êtes dans une impasse, une maladie des plantes, que pour l'instant, un jour peut-être on trouvera autre chose, pour l'instant on ne savait pas la soigner autrement. Alors on a en parallèle de la recherche qu'on faisait sur des vignes génétiquement modifiées, on a aussi testé toutes les plantes, toutes les combinaisons de plantes qui, en co-culture, pouvaient permettre d'amortir les dégâts des virus de cournouet. Donc, il ne s'agit pas d'en faire une solution exclusive. En France, on n'a pas une approche, on n'a pas la religion de la biotechnologie. C'est la biotechnologie, si vraiment besoin, en complément du reste. D'autres pays ont une approche un peu inverse.
On va travailler sur le biocontrôle, sur les insectes auxiliaires, sur tout un ensemble de méthodes visant à renforcer des défenses naturelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a une infestation, et les criquets, quand ils s'abattent en Afrique de l'Ouest, c'est des nuages entiers, ça dévore tout. C'est pas parce qu'on a fait de l'agriculture intensive, c'est parce que on a cessé de surveiller justement ces nuages de criquets. Donc là, il faut intervenir, il faut rien bannir, il faut pouvoir mobiliser toutes les solutions pour faire face à ce problème de la faim dans le monde.
Valentin Brochard.
Oui, je voulais préciser ce qu'était le CCFD tout à l'heure, justement pour éviter ce genre d'amalgame. En fait, juste en deux mots, le CCFD actuellement c'est la première ONG de développement en France, mais c'est une ONG qui travaille uniquement en partenariat. C'est une ONG qui travaille en renforcement des capacités uniquement avec des partenaires qui sont locaux, préexistants et principalement des organisations paysannes dans le cadre de la lutte contre la faim. Le constat que je partage, c'est pas juste un constat qui vient de notre chapeau. C'est un constat qui est co-construit et qui est partagé par ces organisations. On parlait du Sahel, là, juste avant. L'Europa, qui est le principal réseau des organisations paysannes en Afrique de l'Ouest, a clairement pris position par rapport au modèle de développement agricole qu'ils veulent voir être mis sur la table. C'est-à-dire que leur position sur les OGM est claire, leur position sur l'agriculture industrielle est claire, et leur position sur l'agroécologie est on ne peut plus claire. Ils viennent de lancer, il y a un an et demi, une initiative qui s'appelle...
Pardonnez-moi, sur l'agroécologie, du coup, c'est quoi?
Bah,
c'est clair.
Ils sont pour une transition agroécologique paysanne, c'est-à-dire qu'ils se situent au niveau de l'exploitation familiale en soutien aux petits exploitants et aux petites exploitantes en Afrique de l'Ouest. Et quand je vous parlais de la 3AO, et je reviens juste là-dessus très rapidement, c'est une initiative qui s'appelle une initiative pour la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, qui a été initiée par l'Europa et qui regroupe toutes les organisations de producteurs, d'éleveurs, mais aussi les centres de recherche et notamment le CIRAD pour la France qui fait partie de cette initiative pour valoriser et faciliter cette transition agroécologique, car c'est la solution qu'ils poussent sur la table et qu'ils posent en fait pour lutter contre la faim. Pour quatre raisons, et je termine là-dessus. Premièrement, car c'est une agriculture qui est la plus résiliente à leurs yeux. On parlait de l'impact du changement climatique au Sahel. Ils ont clairement défini les critères de cette transition. Car c'est une agriculture qui est pourvoyeuse d'emplois. On parlait de transition démographique tout à l'heure. C'est très important dans un contexte dans le contexte sahélien. Pour rappel, le Niger actuellement, en 2050, ça sera 75% de la population qui aura moins de 25 ans et qui reste majoritairement rurale. Et enfin, c'est une agriculture qui fait vivre le tissu économique parce qu'elle est localisée et donc du coup elle construit et elle participe à la construction de systèmes alimentaires locaux et de systèmes économiques locaux. Et enfin, parce qu'elle est nutritive, parce qu'elle pousse la diversification agricole et parce qu'elle pousse la diversification alimentaire.
Marion Guillou, est-ce qu'il n'y a quand même pas des modèles qui paraissent beaucoup plus vertueux que d'autres? Et celui que décrit Valentin Brochard semble quand même l'être. Et puis ça se base aussi sur un certain nombre de constatations. Donc.
Mais, de toute façon, les solutions, il faut les construire avec les acteurs. Je veux dire, les semences sélectionnées, elles n'existent que si les acteurs les achètent. Et donc évidemment, les solutions, il faut les construire avec les organisations paysannes en place. Il faut aider à la création des circuits de commercialisation, aider à la constitution d'infrastructures pour pouvoir acheminer les
coopératives, les voilà. Syndicats, parce que sinon le paysan seul est un paysan spolié. C'est pour ça que c'est important que les agriculteurs s'organisent.
Donc tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut travailler avec les populations. Ce que je dis simplement, c'est que ça me paraîtrait dangereux, et d'ailleurs c'est pas ce que fait le monde entier actuellement, de se fermer la voie d'un recours à la sélection des plantes qu'on peut obtenir rapidement en cas de problème. Je vous donne un autre exemple tout concret, puisqu'on l'a utilisé en France. À un moment donné, la rage est arrivée en France par les forêts de l'Est, parce que les animaux sauvages n'aiment pas beaucoup les frontières, en tout cas ils ne montrent pas leur passeport, ils circulent et ils ont apporté la rage dans les forêts de l'Est, avec le danger que ce soit transmis aux populations en France. Eh bien, on a utilisé des vaccins recombinants qu'on a largués par hélicoptère, qui ont été autorisés, parce qu'il fallait stopper la progression de la rage. Et c'est de fait un vaccin OGM qui a été fait parce qu'il a été fait rapidement. Donc quelquefois, il arrive qu'on ait besoin de quelque chose de rapide en intervention sur tel ou tel problème ponctuel. Mais loin de moi de dire que je pense à une agriculture biotechnologique, bien
et
sûr.
Et la recherche publique aujourd'hui est suffisamment importante pour financer les investissements nécessaires à ces réponses rapides, Marion Guillou ?
Alors, je dirais que sur l'histoire du vaccin recombinant, c'était la recherche privée qui l'avait mis au point. Sur à l'INRA, quand j'étais à l'INRA, je me suis battue surtout pour faire des approches agroécologiques et systémiques. Mais je pensais qu'il fallait rester compétent pour savoir comment marchaient les biotechnologies et comment faire éventuellement une semence par les biotechnologies pour être plus efficace et aller plus vite. C'est-à-dire, je ne pense pas que ce soit exclusif. Oui, aux approches agroécologiques, ça utilisera toutes les fonctions écologiques de la nature, des sols vivants, des paysages divers, une diversité de semences, une diversité de plantes. Donc tout ça, c'est bon et ça permet une nutrition plus équilibrée en micronutriments. Donc bien sûr que c'est bon, mais il ne faut pas devenir sourd et aveugle par rapport à des technologies qui, potentiellement, en cas d'accident sanitaire, en cas d'accident climatique, seront utiles. C'est ça, c'est plutôt ne restons pas sourds et aveugles à des nouvelles technologies. Oui. C'est plutôt ça.
Dans les zones géographiques qu'on a évoquées ce soir, il y a notamment le Sahel, qui est une zone qui est confrontée à énormément de violences, qui est en plein conflit. C'est peut-être l'occasion, Sylvie Brunel, d'évoquer quelques-uns des paix que vous vouliez évoquer, à commencer par la paix, c'est-à-dire l'insécurité alimentaire. Quand il y a de la guerre,
bien sûr,
il y a de l'insécurité.
Les premiers pays de famine dans le monde, ce sont les pays de conflit, parce que les agriculteurs déjà ne peuvent pas produire, donc c'est difficile. Le deuxième pays, c'est la pluie. On parle de changement climatique, mais s'il n'y a pas de pluie, il faut penser des systèmes d'irrigation. L'irrigation qui ne peut pas forcément des grands systèmes. Vous voyez, des systèmes, souvent l'eau ne manque pas, mais elle ne tombe pas au bon moment. Le troisième P, c'est les plantes. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, il faut mobiliser toutes les plantes nécessaires, qu'il y a une infinie variété dans le vivant, et qu'aujourd'hui, il faut puiser ce qui est le meilleur. Le quatrième P, c'est la sécurisation foncière, c'est-à-dire la propriété. Parce que quand un paysan ne possède pas sa terre, il ne peut pas l'améliorer. Il ne peut pas planter des arbres, il ne peut rien faire. Donc, c'est la propriété. Le cinquième P, c'est la protection. Protection des récoltes. N'oublions pas la grande famine d'Irlande, 1 million de morts liés au mildiou de la pomme de terre, ça peut revenir. Les grandes zoonoses, Marion vient d'en parler, ça nous guette. Un quart des récoltes mondiales est contaminée par l'aflatoxine, c'est-à-dire le plus puissant cancérogène naturel. On connaît même plus les mycotoxines en France. Donc la protection des récoltes, mais aussi la protection des paysans. Parce que pour qu'un pays puisse avancer vers l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire, il faut que son agriculture soit protégée des aléas, de la concurrence déloyale. Mais même en France, un quart des importations qui arrivent contiennent des produits qui sont interdits en France. Donc vous voyez, c'est un P qui est important. Et puis bien sûr, les prix. Parce que si les prix sont pas rémunérateurs pour l'agriculteur, il peut pas faire le surcroît d'effort. Mais il faut en même temps qu'il soit accessible pour le consommateur, parce que la faim, c'est un manque de pouvoir d'achat, et ça veut dire qu'il faut de bonnes politiques.
Je ne sais pas sur lequel de ces termes vous souhaitez revenir, Valentin Brochard, mais peut-être sur la question en tout cas de la paix. On voit à quel point les conflits peuvent générer de l'insécurité alimentaire. Est-ce qu'on est capable de dire que l'inverse est vrai aussi? C'est-à-dire que l'insécurité alimentaire et génératrice de conflits, Valentin Brochard, ou Marion Guillou, je ne sais pas.
Oui, dans l'histoire, on l'a vu. Hein. Dans l'histoire, la Révolution, enfin, je veux dire, la Révolution française, on a une histoire très, très documentée en Afrique du Nord. Enfin, on a régulièrement documenté le fait que la famine...
La crise du Soudan, là, c'est le triplement du prix du pain, on voit bien. Le prix de la nourriture, ça conditionne la paix sociale.
Valentin Brochard?
Je suis entièrement d'accord. Je voulais juste savoir si je pouvais ouvrir le débat sur un autre champ qui pourrait.
Non, pas l'ouvrir parce que alors là, on est à une minute de la fin. Alors plutôt, si vous voulez bien, alors peut-être pour conclure avec vous, est-ce qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, un dossier urgent sur lequel vous travaillez au CCFD Terre Solidaire, sur lequel vous souhaiteriez peut-être alerter nos auditrices et nos auditeurs pour conclure en une minute?
Soutenez le CCFD Terre Solidaire,
non, bien sûr. Enfin, oui, bien sûr, mais ça ne sera pas mon message là en tant que
dossier. Alors allez-y pour votre message, mais ça sera juste un message et pas une ouverture
moi,
de débat.
Moi, je souhaite que Catherine Jalanel soit élue parce que je pense que, contrairement à ce que vous disiez, la concurrence chinoise est rude. Et ce sont des modèles différents. Et si on veut porter des modèles agroécologiques dans le monde, je pense que c'est une excellente
candidature. Et n'oublions pas que la française est une agriculture durable. Elle est considérée comme la plus durable au monde.
Si je peux juste me permettre une intervention.
Permettez-vous.
C'est qu'il faut privilégier et il faut écouter ce que demandent tant les organisations paysannes que les sociétés civiles des pays qui souffrent de la faim. Ils ont, on peut pas être dans une approche misérabiliste en disant ils n'ont rien à dire, ils ont que leur houe et leur seau et ils arrivent pas à cultiver. Ce sont des populations qui sont structurées, sont des populations qui ont des messages, sont des populations qui montent au créneau, sont des populations qui font des plaidoyers dans leur pays pour influencer leur politique agricole et alimentaire et qu'on fait des choix sur leur avenir et sur le modèle de développement qu'elles ont envie de voir.
Et ben voilà qui nous servira de conclusion. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Donc Marion Guillou, Sylvie Brunel et Valentin Brochard. Je précise que demain, dans les matins de France Culture, il sera encore question d'agriculture, de permaculture même, puisque Guillaume Erner et son équipe seront en direct de la ferme du Bec-et-Loin. C'est en Normandie, dans le département de l'Eure. Tout ça, ce sera donc à partir de 7h demain. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster, Virginie Leduo et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras avec à la prise de son Clément Daté.